Je me suis empêchée de le faire pour plusieurs années parce que je pensais pas que je pourrais le faire. Tout le monde me disait que je pouvais, mais c'est que j'avais peur d'être une des rares femmes à le faire. Francophone en plus. Puis dans la communauté LGBT, tu sais, je sais pas, j'avais comme plein de trucs qui me bloquaient parce que j'étais comme une minorité sur plein de facettes.
Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest de saison 2, Nature Elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 6. Fanny Dufour, kayak d'eau vive et ski, rivière Slocan.
Est-ce qu'on pourrait te le mettre vraiment bien? Oh!
Il y a cette petite poche-là ici. Il y a comme une poche ici. Hein,
ouais, mais check,
ouais, ça c'est bon? Bien. Ah ben oui, regarde.
C'est très bon là.
Ah, oui.
Veux-tu accès à ton sifflet quand même?
Ouais, je pense que je vais être correct.
C'est correct?
Le temps que j'ai le micro, je pense que j'arrive à faire une sifflette.
OK.
Oui. C'est sans fil, ça? Ouais.
Oui, et puis moi, je suis comme...
C'est beau, hein? J'ai hâte de voir le niveau. Il y avait-tu à avoir de l'eau quand même un peu?
Je peux pas comparer.
Ouais. C'est sûr, c'est...
Il y a de l'eau.
Puis on fera le filming après. Fait qu'on remontera chercher ton gear ou tu veux-tu juste l'essayer au truck puis on l'amène en bas puis comme
ouais.
Ça, c'est bon. Parce que c'est des casques de madame.
J'ai adoré ta question, il y a toute une grosse tête.
Te considères-tu comme quelqu'un qui a une grosse tête?
C'est rare que je pense à ces choses.
Diplômée de la technique du tourisme d'aventure au cégep de Gaspé et des Îles, Fanny Dufour est amoureuse depuis toujours des sports d'eau vive et du ski. Elle nous fait découvrir en kayak les rapides de la rivière Slocan, où pendant plusieurs années, elle a guidé des expéditions de rafting. Elle nous parle de son parcours de certification pour devenir guide de ski, du défi d'être une femme dans l'industrie du guidage et des réalités d'habiter dans une mini-maison. Il pleut fort sur les berges de la rivière, les nuages sont bas et frôlent presque les vagues, mais Fanny demeure calme et on sent qu'on va vivre quelque chose d'inoubliable.
Je me sens mal pour vous autres, tout dans la grosse pluie avec l'équipement.
Ouais, on n'aurait pas pu faire ça en dedans. Avec un green screen, là.
Un green screen, la piscine.
Ça aurait fait.
Il y en a un qui est en arrière, qui prend, qui bouge le kayak, puis elle. Il y en a deux autres.
Vous me tenez de main, ouais, c'est ça.
Fait que où est-ce qu'on est aujourd'hui? Dans cette belle journée ensoleillée.
On venait sur le bord de la rivière Slocan, précisément à Shorekers, au pied du rapide Le S-Bend. Moi, la raison pourquoi je connais ce spot-là, c'est que je guidais en raft sur cette rivière-là, puis on s'alternait, puis quand on n'était pas celui qui guidait, il fallait qu'on vienne prendre des photos, genre.
OK.
Puis je te cacherai pas que j'ai déjà vu un ours là quand j'étais là à attendre pour prendre des photos. Fait que j'amenais toujours un bear spray au cas où.
J'allais sur moi.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je sais jamais. Pat, lui, il va être là en backup, fait que je vais y amener son kayak juste pas loin. Puis quand je suis sur l'eau, moi, tout seul, lui, il faudrait juste qu'il soit prêt dans le compte courant. Ouais, j'en ai un, moi. Je peux te le prêter, ouais.
Est-ce que je peux me positionner aussi?
Ouais, au pire. Puis... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Les chances qu'il arrive quelque chose sont faibles, mais c'est juste pour l'avoir au cas où, là.
Puis ça vient de où, ton amour du kayak?
Écoute, moi, c'est plus l'amour de l'eau vive qui a commencé quand j'étais toute jeune. J'allais dans un camp de vacances qui était orienté pour le canot camping. Puis ma piqûre pour le kayak a commencé vraiment sur la rivière Jacques-Cartier à Québec, sur la section Tewksbury, qui était une section qui m'intimidait beaucoup dans le temps. Puis que là, maintenant, c'est une des sections que j'aime le plus pagayer quand je retourne au Québec. Puis c'est ça. Puis ça a été un sport qui m'a suivi un peu partout où je suis allée, où est-ce que j'ai guidé en raft. Puisque le kayak puis le rafting, ça revient toujours un peu ensemble.
Puis ça fait quand même vraiment longtemps aussi que tu travailles dans le domaine du plein air.
Mm-hmm.
T'as fini l'école secondaire, puis t'es allé tout de suite dans cette carrière-là. Puis j'aimerais ça savoir, tu sais, ça a été quoi ton cheminement? Pourquoi est-ce que t'as abouti dans l'Ouest maintenant? Parce que tu travailles toujours dans ce domaine-là.
Mmh. Ouais, ben c'est ça. Moi, comme tu disais, dès le secondaire, dès que j'ai fini le secondaire, j'étais allée faire une technique au cégep à Gaspé en tourisme d'aventure. Puis j'avais le choix de la faire en français ou en anglais. J'ai décidé de la faire en anglais parce que j'avais besoin de m'améliorer, parce que mon but ultime, c'était de venir travailler dans l'Ouest. Puis au cours du programme, j'ai des professeurs, beaucoup qui avaient passé du temps dans l'Ouest ou même qui venaient d'ici, qui nous en parlaient. Donc moi, dès que j'ai gradué, c'était mon plan de venir passer du temps ici puis de travailler ici. Puis aussi, l'Ouest avait quand même offrait énormément d'opportunités en termes de pour guider, puis autant en rivière que l'hiver. Puis c'est ça un peu, ça a été un peu ça mon cheminement. J'ai commencé avec le rafting parce que c'est ce qui me passionnait beaucoup dans ce temps-là, puis c'est ce qui était plus facile pour moi. Puis c'est ça, c'est ce qui m'a fait m'intéresser à guider en ski. Puis maintenant, c'est ça que je fais, puis c'est plus là-dessus que j'ai focusé mon temps depuis, ouais, environ 10 ans maintenant.
Bien, parlons-en de ton cheminement en tant que guide de ski de montagne. Puis j'aimerais ça aussi savoir, tu sais, toi, ta réalité en tant que femme, tu sais, t'as vécu ça de quelle façon?
Oui, c'est sûr que mon cheminement pour devenir guide de ski a quand même été long et périlleux. Autant parce que c'est un domaine qui n'est pas facile de percer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. Puis aussi, moi, venant du Québec, j'étais pas au même niveau de quelqu'un qui était né ici, qui avait grandi dans les montagnes. Donc, il a fallu que je rattrape mon retard un peu d'une certaine façon. C'est sûr que j'ai été la seule fille de l'équipe plusieurs années. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment ignorer dans ce domaine-là. C'est toujours un peu plus difficile d'être une femme, juste parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit se prouver un peu plus. C'est ça, 10 ans plus tard maintenant, je suis enfin certifiée par l'Association canadienne des guides de montagne comme apprentie ski guide. La prochaine étape, c'est d'être fully certified. C'est un gros accomplissement, j'en suis très fière, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes francophones qui se sont rendues là.
Pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait des initiatives axées femmes, autant pour les sports d'action, comme le ski, comme le kayak, comme le raft, que juste pour l'accès à des emplois comme ça?
Mm-hmm. Mais moi, je trouve que dans des emplois comme ça, comme guider, être dans des positions de leadership, puis des positions aussi de questions de sécurité, je pense que les femmes ont beaucoup à apporter parce qu'on pense différemment. On apporte généralement des bons points lors des safety meetings. Puis je pense que d'avoir de la diversité puis d'avoir un peu plus de femmes dans les équipes, ça ajoute beaucoup. J'ai eu mes embûches au cours de mon parcours comme femme dans cette industrie-là. Mon rêve, ce serait d'en voir de plus en plus des jeunes femmes qui se lancent puis qui le font quand même puis qui se disent pas qu'ils seront pas assez bonnes ou qu'ils seront pas compétentes pour faire cet emploi-là. L'Ocane, c'est une rivière sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps en rafting. J'ai guidé 3 ans sur la rivière, donc je connais tous les coins, toutes les roches, toutes les vagues, j'y connais bien. C'est de l'eau chaude qui arrive du lac Slocane, qui a parcouru vraiment beaucoup de kilomètres avant de se rendre à la section qu'on fait en kayak. Donc c'est de l'eau douce et de l'eau invitante pour le kayak. C'est pas comme des rivières de glaciers froides qui peuvent être intimidantes. Donc, la Slocane, c'est vraiment une vibe comme pas trop stressante, puis juste le fun. C'est la section où est-ce qu'il y a le plus de rapides en continu. Nous, en rafting, on l'appelait le S-Bend, parce que ça fait un S. Puis il y en a qui l'appellent les Fashina Rapids. Je pense que ça, c'est son nom officiel. Moi, je la sépare toujours en deux. T'as comme la première section du S, après ça, la deuxième. La première, c'est comme un peu une espèce d'apéritif. Les vagues commencent à être un peu plus grosses. Il y a des trucs qu'il faut que t'évites. Puis une fois que tu retournes le coin, là, t'as le temps de prendre 2 minutes parce que l'eau ralentit. Puis la deuxième section du S-Bend, là, c'est là que le monde commençait à se dire « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? » Puis c'est ça que c'est là que les vagues sont plus grosses. Puis c'est comme juste un enchaînement rapide, super le fun. Puis là, après ça, ça se calme, tu sais. Puis là, tu peux sortir dans un contre-courant, regarder ce que t'as fait. Puis c'est tout le feeling d'avoir accompli ça. Tu sais, tu te sens pas mal seul dans ton expérience de descendre ces rapides-là. Puis c'est toujours du bon temps, puis ça donne le goût de remonter puis de le refaire à chaque fois. Ouais. Le kayak, ça a toujours été un attachement genre émotionnel puis quasiment nostalgique. Ça me rappelle mon enfance, mais le ski, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est vraiment ce qui me fait lever le matin. C'est la raison pourquoi je suis ici, c'est ce que je fais comme travail.
Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du ski mm-hmm. au Canada.
Ah, oui, oui.
Puis, étrangement, j'ai jamais skié de ma vie.
C'est-tu vrai?
Oui.
Ben, mais tu fais du snow?
J'ai fait du snowboard okay. quand j'étais adolescent, parce que okay. c'était cool. J'ai fait du ski de fond, parce que je viens ouais. de l'Outaouais, puis il y a plein de skis de fond qui se donnent.
Super fun, le ski de fond.
Mais j'ai jamais fait de ski alpin.
Mm-hmm.
Et là, cet hiver, je commence ma carrière. De oh, skieur.
Parce que là,
je veux plus faire de snowboard. Non, je veux essayer bien. De faire du ski.
Oui.
Là, j'ai passé à peu près 3 ans à investiguer vraiment surtout la décennie 1940.
attirant, c'est le
fun. Puis moi, en étant quelqu'un qui a jamais skié, ça m'est devenu vraiment apparent que le ski, pour l'humain, il y a une obsession, selon toi...
Là, fascinant,
ouais. Je vais combiner mes deux projets, là.
Oui.
Selon toi, c'est quoi notre obsession pour le ski?
C'est vraiment une bonne question, parce qu'honnêtement, j'ai jamais pensé au ski de cette façon-là. J'en ai comme toujours fait. Ça m'a jamais comme traversé l'esprit de pourquoi j'en faisais.
Mais tu viens de dire que tu serais pas capable.
Mais
de
je serais pas capable, mais non, c'est ça. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un sentiment de... C'est comme un sport qui... Puis surtout la poudreuse, là, surtout le ski dans la poudreuse, là, c'est la connexion avec la nature, c'est le feeling sous tes pieds de la neige, puis de comme comment tu vas naviguer avec ça, puis toute la partie comme un peu d'adrénaline qui monte aussi quand tu te mets à aller vite ou aller dans des trucs plus techniques, puis c'est comme, c'est juste le feeling de voler ou de flotter, ou c'est juste comme ça devient un peu t'enlever une espèce de... Ça te fait oublier tout le reste. Tout ce que tu focuses, c'est genre, qu'est-ce que tu fais là? Puis, tu sais, ça, c'est des concepts que je peux transférer à la rivière aussi, mais le ski, c'est que ça, là. Genre, mais pour moi, vu que c'est tellement un sport que j'ai fait tout le temps, que j'ai toujours été bonne à faire grâce à mon père qui m'a montré à en faire jeune, tu sais, ça m'a jamais fait peur de skier autant que j'ai peur des fois de faire du kayak, tu sais, dans le sens que, sans penser à pourquoi, c'est juste un feeling général d'être en montagne, d'être sous mes skis. C'est sûr qu'après ça, il y a une complexité qui s'ajoute quand tu commences à faire du touring en backcountry et tout. Ça devient juste une autre game complètement. Puis ça, c'est ce qui m'a passionné aussi. Mais c'est simple, tu sais. C'est juste le fun. Ce que je disais, c'est que j'ai étudié en plein air. C'est la seule étude que j'ai faite, tu sais. Puis c'était un cégep, puis c'était une technique. De 3 ans que j'ai fait, genre direct après le secondaire, j'ai gradué super jeune, j'avais 19 ans. Puis moi, mon but, c'était d'aller dans l'Ouest, travailler là-dedans. Puis en plus, j'ai fait ma technique en anglais, venant d'un background puis d'une famille 100% francophone, parce que je m'étais dit, il faut que j'apprenne l'anglais puis il faut que je devienne meilleur si je veux aller vivre, travailler dans l'Ouest. Fait que, tu sais, j'avais comme déjà ce plan-là. Puis depuis ça, tu sais, j'ai 32 ans, fait que ça va faire quasiment 15 ans que c'est ça mon but dans la vie. Puis ça m'a amené où je suis là maintenant, mais c'est ça, j'ai beaucoup focusé sur le ski parce que c'était vraiment ça mon gros truc. Mais j'aimais beaucoup la rivière, j'ai grandi dans un contexte que j'ai toujours été exposé à autant le ski, mais aussi genre le canot, le kayak. J'allais dans un camp de vacances jeune, le camp Minogami, là, à l'extérieur de Shawinigan, qui a changé ma vie, là, vraiment, ce camp-là. Les camps de vacances, là. Faut que toutes les jeunes fassent ça. Donc, c'était juste de moi, là. J'ai voulu être guide de rivière aussi, puis j'ai focusé là-dessus, puis je l'ai fait longtemps. Toutes mes premières années au BC, ça a toujours été saisonnière guidée, tu sais, genre je guidais en ski, puis je guidais en rivière. Mais c'est comme si la pandémie m'avait réalisé que guider à l'année longue, c'est pas super sustainable. C'est pas un service essentiel pantoute, fait que, tu sais, j'ai fait de la construction, j'ai essayé de faire le médic, puis en bout de ligne, j'étais encore un peu en train de me chercher de ce côté-là, mais guider en rivière, surtout en rafting, il y a moins de possibilités de développer une carrière là-dedans. C'est comme un peu un summer job, de quoi que tu fais pour le fun, c'est mal payé, puis ben...
Mais tu bois beaucoup de bière.
Tu bois beaucoup de bière, tu rencontres du monde vraiment hot.
À tous les jours, ouais. Une nouvelle gang.
Ouais, ouais, vraiment.
Ils sont en vacances.
Ouais, c'est vraiment le fun de rafting. Puis qu'est-ce que je trippais, c'est que majoritairement du monde qui décide d'aller faire ça, ils sont complètement terrifiés à l'idée de le faire, tu sais. Puis, tu sais, ils veulent se sortir de leur zone de confort, puis ils sont genre, je vais aller faire du rafting, tu sais, ça va être extrême. Fait que, tu sais, c'était tout le concept de genre, les mettre à l'aise, les faire sentir comme en sécurité. Puis qu'en bout de ligne, c'était l'expérience comme de leur vie. Mais je trouvais ça super satisfaisant.
Les aider à dépasser ouais. Leurs limites.
Ouais, exact. Puis, tu sais, j'ai eu toutes sortes d'histoires puis d'expériences de sorties en rivière qui ont été vraiment mémorables autant pour moi que pour le monde. Fait que, tu sais, ça, c'était super gratifiant comme job. Puis oui, c'était le fun. C'était un peu un monde de party. Puis c'était ce qui m'a fait venir dans l'Ouest en premier. Puis après ça, j'ai travaillé en Norvège hein, comme guide de raf aussi. Puis je m'en allais retourner avant la pandémie pour une deuxième saison. Puis c'est là que ça a comme fait, ouais. Dans le fond, peut-être que le rafting, je devrais plus garder ça comme un hobby, puis vraiment faire ça comme job. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis ramassée à être médic sur un pipeline cet été, au lieu d'être sur la rivière.
Une nouvelle expérience.
Exact, on essaie des trucs.
Ouais. Je trouve ça cool que t'aies dit sortir de ta zone de confort, tu sais.
Ouais.
Quand t'emmènes des gens en raft.
Ouais.
Ça me rappelle que dans la première saison, l'épisode 14 avec Alexandra Tremblay, que
ouais.
Tu connais.
Ouais, ouais.
C'était ça le titre de l'épisode, tu sais.
Ah, c'est
si
bon.
Je me rappelle, c'était genre Pink Water, être lesbienne, sortir de sa zone de confort, selon Alexandra Tremblay.
Ah, c'est drôle.
Puis, avez-vous déjà fait des sorties en kayak, toi, Pierre?
Ah, oh, tout le temps. C'est genre ma chemise de kayak avec qui on y va tout le temps. Puis, avec ma blonde aussi. Puis, une autre de nos amis. Oh, ouais, on va Alex, c'est la première que j'appelle pour aller pailler. Ben, depuis qu'on est en Nelson ensemble, on n'a pas vraiment paillé dans le passé, comme. c'est quand même un petit monde, là, le monde du kayak au Québec aussi, surtout au Saguenay. On s'est comme rejoint là-dedans quand on s'est rencontrés à Nelson. On était « Ah, tu fais du kayak? » Ouais, nous autres aussi. Fait qu'on s'est juste mis à y aller ensemble. Puis d'ailleurs, l'été 2020, quand tout a shut down, puis qu'on a tous perdu nos jobs un peu, puis moi, je suis pas pu aller retourner en Norvège, on a juste kayaké. Ben, t'sais, un peu comme dans le podcast d'Alex, là, t'sais, je l'ai écouté, puis c'est vrai que c'est un sport qui connecte vraiment le monde ensemble, parce que c'est quand même vraiment dangereux, puis c'est vraiment un truc qui... ben, c'est ça, tu comptes sur ton monde, là, quand tu y vas, puis sortir de la saison de confort, c'est tout à fait vrai, t'sais, même le monde comme nous autres, que ça fait des années qu'on en fait, il y a pas une fois que je pense que j'ai pas le petit stress avant d'y aller, t'sais, c'est jamais vraiment ce qui va se passer, fait que c'est ça.
Ton but, c'était de venir dans l'Ouest, puis c'est grâce au raft que t'es venu dans l'Ouest. Mmh. Puis j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Qu'est-ce que tu retrouvais pas, disons, au Québec ou en Norvège? Ou tu sais, pourquoi ici?
Ouais, c'est une bonne question. Ben, on dirait que dans mon programme de plein air à Gaspé, comme je l'ai fait en anglais, beaucoup de mes profs venaient du BC en vrai parce qu'il y avait de la misère à trouver des gens québécois qui parlent anglais pour enseigner le cours en anglais. Fait eux, ben, on en parlait beaucoup. Puis j'ai décidé de venir. C'était dans le cadre d'un stage, dans le fond, avec le cégep que je suis venue la première fois. Puis j'avais des amis du programme qui avaient trouvé de la job à Jasper, en Alberta. Puis ils m'avaient dit que c'était un bon spot où aller parce que il y a beaucoup de rafting qui se passe là, puis beaucoup de tourisme, fait que c'est sûr d'avoir de la job. C'est pas lettre. Ouais, ça se défend bien. Fait que ouais, moi, c'est sûr que première expérience dans l'Ouest ever, arriver à Jasper pour un été complet à guide en raft, c'est mes premières grosses montagnes. T'sais, je me rappellerai toujours de la route en autobus entre l'aéroport d'Edmonton. T'sais, je me rappelle voir le mur de des Rocheuses pour la première fois de ma vie. T'sais, t'oublies jamais ça, là. T'sais, fait que ça m'a juste comme confirmé. Je suis comme, OK, j'étais à la bonne place, je fais la bonne affaire. Cet été-là avait été autant extraordinaire que challenging parce que je me suis rendu compte à quel point mon anglais était pas super bon finalement. Puis ça m'a fait vraiment devoir me botter le cul pour m'améliorer. Puis j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont aidé avec ça. Puis il y avait pour m'aider une bonne communauté de Québécois qui était là aussi. Moi, c'est sûr que cet été-là, ça a été mon genre. Je me voyais mal faire ça au Québec alors que je pouvais le faire dans un décor comme ça, puis dans un contexte comme ça, puis aussi, tu sais, le défi de le faire dans une autre langue, puis d'être loin de chez nous, puis d'être partie de chez mes parents, mettons, pour aller à Gaspé, c'était déjà un bon move, là. J'ai de Québec, tu sais, fait que c'était comme... Ça, c'était pas nécessairement ce qui me motivait à venir dans l'Ouest, mais c'était un truc de plus, là, tu sais, juste faire mes affaires. Hein. Puis c'est quand je suis restée une année complète pour la première fois. Mais là, cet hiver-là, j'étais allée passer à Revelstoke parce que j'avais des amis du Québec, mais qui étaient avec moi à Jasper pour guide en raft, qui étaient comme nous, on passait l'hiver à Revy. Ce qui est. Puis j'étais comme cool, c'était dans les trucs que je voulais faire le plus longtemps.
Tu skiais déjà?
Je skiais déjà.
Ton enfance?
Depuis mon enfance, oui. Puis dans le cadre du cours de plein air à Gaspé, on a fait beaucoup de ski dans les Chic-Chocs. Ils nous avaient initié au backcountry skiing, au ski touring, en télémarque dans le temps, là, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des bindings de ski, c'était n'importe quoi. Et on pognait des débarques sans arrêt en descendant, mais ça m'a fait apprécier encore plus le ski après avoir fait 3 ans de télémarque. Mais
là, le step était quand même gros.
Et, oui.
Parce que la montagne Revelstoke, le pitch est vraiment agressif.
Ouais, puis pas juste la montagne de ski, c'est ça à faire, c'est qu'on était à Revelstoke, mais notre plan c'était de continuer à faire du ski touring, fait qu'on allait jouer dans des places comme Rogers Pass. Moi, la première fois que je suis arrivée à Rogers Pass pour faire une journée de touring, je suis venue niaiser, là. C'est vraiment là-dedans qu'on s'en va. T'sais, moi, j'étais habituée au Mont Hawksback, là, dans les Chic-Chocs. C'est pas toute la même game.
Puis le monde aussi, là, la quantité de monde. On vient juste d'aller faire le tournage avec Sabrina et Mont à Rogers Pass. Puis
ouais.
C'est immense. C'est vraiment pas les montagnes qu'on a dans l'Est.
Ouais. Puis t'sais, même en comparaison aux Chic-Chocs, qui sont techniquement les grosses montagnes du Québec, c'est là que le monde va pour faire du touring puis être dans du terrain plus comme sérieux avec du terrain avalanche et tout. Le step entre les Chic-Chocs, puis ça, c'était énorme. Puis tu sais, j'avais quand même des bases de cours d'avalanche grâce à la technique de Gaspé. Tu sais, j'étais pas non plus n'importe qui se ramassait dans le backcountry puis qui savait pas qu'est-ce que ça impliquait, tu sais. L'ampleur du terrain, c'était quelque chose. Mais ça m'a fait réaliser que c'est ça, là, je voulais rester les hivers aussi, là. C'était plus juste l'été puis le rafting qui me motivait à rester dans l'Ouest, c'était les montagnes puis le ski aussi.
Fait que là, tu déménages à Revelstoke, puis t'as habité là à environ 5 ans.
Mm-hmm.
Puis ceux qui te connaissent savent que t'es une passionnée de tiny house. Puis tu t'es construit un tiny house. Puis je me demande, est-ce que c'était comme un choix, genre, t'as toujours voulu faire ça, ou c'est parce que, tu sais, on le sait, là, en Colombie-Britannique, c'est extrêmement difficile de se trouver du logement, autant de louer que d'acheter. Puis il y a beaucoup de monde qui vivent le van life.
C'est drôle, parce que c'est je l'aurais pas fait toute seule, en fond. C'était pas un truc qui, moi, me tentait de faire ça. C'est comme arrivé à cause des circonstances, des opportunités que j'ai eues, puis surtout grâce à mon copain de l'époque. En fond, parce qu'on était déjà en van life. Puis là, on parle de ça il y a 10 ans. Là.
Ouais, c'était comme pas la mode.
C'était pas un truc encore. Non, pas en tout. On était vraiment pas beaucoup de monde à faire ça. C'était quand même original dans le temps de vivre dans sa van. Puis surtout, t'sais, nous, on le faisait pas pour bien paraître sur les réseaux sociaux. On le faisait vraiment juste parce que c'était la seule façon d'avoir un toit sur notre tête. Parce qu'on était pauvres à ce point-là. Parce que je guidais en raf pendant l'été. Comme je te disais tantôt, c'est pas ça qui paye le plus. Fait.
Puis depuis qu'il y a eu tout le développement de la station de ski à Revelstoke, tout l'immobilier s'est enflammé. Fait, c'était déjà probablement difficile d'accès.
Oui, absolument. Mais j'ai eu la chance, la première heure que j'ai passé à Revelstoke, grâce à des amis qui s'étaient pris d'avance, on avait réussi à louer une maison. J'avais vraiment vécu l'expérience Revelstoke à ski-bomber.
J'ai juste ski.
Je skiais, mais j'ai fait mon cours d'avalanche professionnel d'une semaine qui n'était pas inclus dans le cours à Gaspé, qui était comme un step de plus. En tout cas, mais ça veut dire que la van, c'est arrivé parce que j'ai voulu revenir un autre hiver à Revelstoke. Je m'étais fait engager pour être tail guide dans une compagnie de quatre skis parce que l'hiver d'avant, quand j'étais avec des amis dans la maison, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir le monde des lodges de ski. J'avais pas conscience que c'était un truc. Il m'a expliqué tout le concept de faire des practicums. Comme on dit, c'est comme des stages d'une semaine non rémunérés. Tu vas dans un lodge de ski, t'es un peu l'esclave de service, en vrai. C'est aussi simple que ça.
Fait que tail guide.
Mais parce qu'ils ont, eux, ils ont des tail guides qui sont employés, qui sont payés. Puis t'es vraiment juste un nobody qui est là puis qui veut apprendre comment être tail guide. Pour eux, c'est une façon d'avoir du nouveau staff, tu sais. Ils peuvent te saisir, genre, puis voir quel genre de personne t'es, puis si t'es bon, puis si t'es travaillant pendant la semaine que t'es là. Puis à la fin, eux, ils font comme, ah, ben l'an prochain, on a deux positions ouvertes comme tail guide.
Toi, t'es smart, t'es smart.
Ouais, qui qu'on se rappelle qui était bon. Mm-hmm. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un practicum de dernière minute, parce que d'habitude, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui veut faire ça, puis c'est encore là. C'était fou il y a 10 ans, c'est encore plus fou maintenant, l'engouement pour faire des practicums, pour rentrer dans les lodges. Puis en tout cas, ça pour dire que j'ai eu l'opportunité de faire ce practicum-là, puis ce lodge-là m'appelle, puis ils me disent, on t'engagerait comme tail guide l'hiver prochain. Fait que moi, c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion, mais là, c'était comme un peu dernière minute, pas eu le temps de se trouver de logement. Fait qu'on s'est comme reviré de bord, on a fait, bon, on va vivre dans notre char. Grâce à ses skills à lui, modifier une van et tout. C'est après avoir fait mon premier hiver comme tail guide que je me suis rendu compte que je faisais 2 semaines à la fois au lodge, puis 1 semaine à Revelstoke. Fait que c'était comme fou de payer les loyers de Revelstoke pour être là 1 semaine par mois, quasiment. Fait qu'on a comme venu avec l'idée après de faire genre, on va vivre dans notre van, puis ça va nous permettre de pas être nécessairement basé à Revelstoke, on pourra aller où on veut, tu sais.
Mais là, est-ce que...
Puis là, je me suis éloignée de la tiny house, mais...
Ouais, mais j'ai plein de questions, mais continue,
non, mais continue. C'est correct, mais là, c'est ça. Puis j'ai commencé à être tailguide, puis j'ai continué à retourner année après année à cet endroit-là, dans le fond. Puis à chaque hiver, c'était « OK, là, on va vivre où? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis la tiny house, ça a été des amis qui l'avaient, eux, construit.
Mais attends, avant qu'on rentre dans le chapitre tiny house, fait que là, parce que ça, j'étais pas au courant, vous habitiez dans votre van durant l'hiver.
Durant l'hiver,
Fait que... Nous, tu sais, on a notre référence de l'hiver au Québec. C'était comment vivre dans
Écoute, c'était quelque chose. Moi, c'était drôle parce que je sortais du lodge après 2 semaines. Puis je me rappelle, dès que je retrouvais du service à la route, j'appelais tout le temps mon chum faire comme, « Fait où la maison? » Genre, tu sais, « T'es où? » Tu sais, genre, « Je m'en vais vers quelle ville? Quelle montagne? » Tu sais, puis des fois, j'allais leur rejoindre dans Rogers Pass ou j'allais leur rejoindre... C'est ça, à Revelstoke, mais vivre dans un van l'hiver.
Pour skier le lendemain.
Pour skier le lendemain. Puis on avait des. Tu sais, moi, j'étais pas là en congé longtemps, j'étais en congé une semaine, mais je skiais pendant mon congé. Tu sais, skier, c'était tout le temps, là. Puis ça l'est encore. Honnêtement, je le referais plus, là. C'était quelque chose, là. On était. Tu sais, on était isolés, on avait du chauffage. On réussissait à faire sécher toutes nos affaires après une journée de touring dans la grosse neige. J'étais tout tremble. On faisait sécher ça autour de notre petit poêle. Mais moi, c'était là, j'étais rendue au stade parce que, les loges de ski, tu sais, c'est super luxueux. Je me faisais nourrir, j'ai une laveuse sécheuse, un lit. Fait que c'est comme si je vivais au loge de ski. Je laissais mes affaires là, puis je partais en congé, en vacances.
Wow.
Faire la van life avec mon chum, puis là, je retournais travailler. Fait que c'est comme ça qu'on vivait, puis c'était un peu fou pour vrai quand j'y repense, là. Mais c'était le fun.
Puis là, à un moment donné, vous avez voulu évoluer
exact.
À un tiny house.
C'est ça. Pour nous, passer d'une van à un tiny house, c'était un upgrade. T'sais, beaucoup de monde me disent comment tu fais pour vivre dans une tiny house. C'est tellement petit, mais c'est que j'ai comme... Avant, j'étais dans une van. Fait que c'est sûr, c'est mieux. Puis encore là, c'est grâce à lui beaucoup, parce que c'est lui qui a eu la vision de comme, hey, on a ces gens-là, ils sont prêts à nous vendre leur tiny house, parce qu'ils avaient commencé à la construire. Puis ils ont fini par vivre dedans comme 8 mois, puis ils se sont laissés. C'était un couple. Ça a pas fait, eux autres. Fait que eux, ils étaient comme, ils voulaient juste se débarrasser de la maison, essayer d'un peu de rembourser ce qu'ils avaient dépensé là-dedans. Puis ils ont fait un super de bon prix. Puis c'est ça, mon ex, il avait une vision, là, il était comme, on va passer un été complet à construire ça.
C'était où, ça?
Ben, la maison était à Revelstoke. Mais c'est ça, c'est une tiny house qui est sur un trailer, comme une tiny house devrait faire, là. Mais ça, on rentrera pas là-dedans. Mais, tu sais, moi, le monde qui dit qu'ils ont des tiny houses, mais c'est juste un cabanon dans leur cour, je suis comme, non, non, là.
C'est un cabanon.
C'est un cabanon. Une tiny house, c'est sur des roues, puis tu peux la déplacer. C'est ça. On met ça au clair, tout le monde. Fait qu'elle était à Revelstoke, puis on a pu la déplacer jusqu'à Squamish à ce moment-là. Fait qu'on a travaillé pendant 3 mois comme des malades à finir la maison. Puis, tu sais, moi, je le suivais, puis je me suis quand même débrouillée aussi avec ça. Puis, tu sais, je suis rendue que je suis plus à l'aise à construire des choses grâce à ce projet-là. Mais ouais, on a commencé à vivre dedans environ 8 mois.
Puis là...
Puis là, on s'est laissé.
Coudonc, es-tu... Ouais. Y a-tu comme un...
Mais c'était pas à cause que ça allait pas bien de vivre dans une tiny house. Ça a été plus compliqué que ça. C'est juste que je suis tombée en amour avec ma blonde avec qui je suis en ce moment.
Okay.
Fait que ça n'a aucun lien avec le lifestyle. Au contraire, nous, on aurait continué de même. On vivait dans une van avant ensemble. On était bien correct, là. La tiny house, c'était pas ça le problème. C'est complètement autre chose. Mais, puis je le salue, d'ailleurs. Il est vraiment encore un bon ami, là. C'est correct. On n'est pas... c'est ça. La vie arrive, hein, puis il y a des choses qui arrivent, puis absolument. Tu t'adaptes. C'est ça. Si ça n'avait pas été lui, je ne me serais pas lancé dans une tiny house, mais les événements ont fait que lui, quand on s'est laissé, ça faisait plus sens qu'il reste dans l'Ouest. Il est retourné au Québec. Puis il est heureux. Puis moi, j'ai fini avec la tiny house, dans le fond. Puis je l'ai toujours. Puis je vis dedans depuis.
Puis t'es heureuse.
Puis je suis très heureuse parce que Crim, c'est vraiment une bonne façon de vivre au BC. Fait que c'est un bon deal. Puis je l'ai amené de Squamish à Nelson il y a environ 6 ans maintenant. Puis j'ai la chance d'avoir une bonne amie d'ici qui, elle, a acheté une parcelle de terrain dans ce coin-là puis qui nous laisse stationner la maison là-bas. Je dis nous parce que là, ma blonde, présentement, vit avec moi depuis 4 ans dans la tiny house. Donc on vit ensemble dedans. On est super bien. La tiny house, elle est bien là. Moi, je pense pas qu'elle va redéménager. Elle a fait son temps. Elle commence à avoir de l'âge.
Peux-tu nous faire une petite visite guidée? Elle a-tu un nom?
Non, c'est la petite maison. Son gros atout présentement à la maison, c'est son deck. Là. J'ai une grosse terrasse à l'extérieur qui fait officiellement plus de pieds carrés que l'intérieur. Wow. Puis elle est couverte, fait qu'on passe beaucoup de temps sur cette terrasse-là. On a un barbecue, tu sais. Puis on a une super belle vue sur le bois et tout. Des chevreuils qui passent puis devant tout le temps. Quand tu rentres, t'as une grande porte-fenêtre avec une espèce de petite mezzanine avec notre lit, un lit queen. Puis en dessous du lit, c'est pas tout à fait assez haut pour être debout, mais il y a une table avec des banquettes. En dessous des banquettes, c'est du rangement. Évidemment, tu utilises le plus d'espace possible dans ces maisons-là. Puis on a un rack à ski juste à côté de ça, avec un petit chauffage au propane qui permet de nous sécher nos affaires l'hiver. Puis à droite, t'as une petite cuisine, là, c'est comme un comptoir, 2 ronds, un mini-fridge, un petit four, un lavabo, ben simple. Puis la seule pièce, dans le fond, c'est la salle de bain. C'est, mon Dieu, grand comme un garde-robe, mettons. La douche, c'est une de mes fiertés, là, c'est moi qui l'ai construite.
Nice.
Mais c'est une des choses que j'ai construite dans la maison, mais elle est toute de bois, dans le fond, elle est faite en cèdre. Fait que t'as comme l'impression d'être dans un petit sauna, c'est le fun. Puis la toilette, c'est une toilette compostable. C'est aussi simple que ça, puis c'est une petite boîte. Il y a tout dedans qu'on a besoin d'avoir.
Puis tout ça, c'est sur une superficie qui est grosse comment?
C'est 8 pieds par 20 pieds. Donc, okay. Si tu comptes le lit en superficie, c'est 195 pieds carrés.
Wow.
Ouais, fait que... Puis
ça, tu peux tirer ça avec un pick-up?
Puis, ouais, un gros pick-up. T'as toujours une limite en largeur, puis une limite en hauteur, sans ouais. devoir avoir des permis spéciaux pour...
La déplacer
sur la route sans que ça soit oversize. Mais il y a les longueurs, c'est un petit peu plus flexible. Comme 20 pieds, c'est quand même une petite. Il y en a qui vont jusqu'à 24, 32. Le plus gros déménagement que j'ai fait avec la tiny house, c'est ça, c'est de Squamish à Nelson. Puis c'était très stressant, là. C'est quoi, Nelson, Squamish, c'est quoi, 8 heures, hein? Bonne journée? Ça nous en a pris 18. C'est-à-dire, mais c'est parce qu'il y a 3 passes de montagne, puis le truck qui la touait, il arrêtait pas de overheater. C'était toute une histoire. Mais assez rendu en un morceau, puis c'est ce qui compte, mais... Ça se déplace, mais tu te déplaces pas ça à chaque fin de semaine, mettons. C'est
pas un campeur.
C'est pas un campeur, mais c'est déplaçable. Puis honnêtement, on est bien. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça être dans une vraie maison un jour, mais là, c'est de voir si la vie va nous le permettre financièrement et
C'est tellement une alternative, tu sais, que
ouais.
Ici, avec le climat qui est quand même assez tempéré durant l'hiver, tu sais, tu peux te permettre de vivre en van ou en tiny house.
Mais je mettrais la tiny house dans une autre catégorie que la van quand même, parce que ça se rapproche plus d'une vraie maison, vu que c'est isolé comme une vraie maison, c'est chauffé comme une vraie maison, c'est ça file pas comme la van dans le temps, que c'était vraiment comme plus de la survie, là. Ça c'est vraiment autant confortable. La seule différence, c'est vraiment la grandeur. C'est sûr que le climat aide, mais je pense que notre maison ferait très bien à Québec dans les moins 30 aussi, là, autant qu'une maison normale.
Okay, mais là, je vais te poser la question qui tue.
Ouais.
Là, vous êtes deux adultes là-dedans avec des affaires. Comme tu sais, on a toutes des affaires. Là.
Ouais.
Tu reçois des cadeaux de Noël, là, tu t'achètes des choses. Vous vivez dans un tout petit espace. C'est-tu comme... Là, ça fait combien d'années?
Moi, j'ai la maison depuis 8 ans.
T'es-tu comme au bout de ta vie, t'en peux plus? Ou on s'habitue, on trouve des trucs? Ou...
C'est une bonne question. Il y a des moments, un peu, je suis comme, oh, ça rentre plus, là, on a trop d'affaires. Mais au lieu de blâmer la maison pour ça, moi, je nous blâme nous d'avoir trop d'affaires. Fait que ça nous motive à faire un clean-up. Puis je pense que ça avait été un cool exercice quand j'avais commencé avec la van. Puis après ça, Tania, c'était de juste comme me subvenir de peu. Puis c'était un peu le concept minimaliste. Mais tu sais, je dirais pas qu'on est minimaliste parce qu'on a quand même des trucs, là. Mais c'est sûr, ça permet d'avoir un peu une critique de genre, OK, j'ai-tu vraiment besoin de tout ça? Mais en même temps, c'est pas l'espace, moi, qui me dérange. Moi, c'est des trucs comme avoir une laver-sécheuse. C'est des choses que beaucoup de monde prennent pour acquis, avoir un bain.
Un lave-vaisselle.
Un lave-vaisselle, exact. Des choses simples de même. Que ça, j'ai hâte d'avoir une maison pour ça, mais tu sais, ça m'empêche pas d'être heureuse quand même sans ces trucs-là. Puis l'espace, on gère. Mais le fait que ça fait longtemps, là, ça va faire 3 ans qu'on est en même place, on a comme accès à un storage. On se limite moins qu'avant sur ce qu'on a. Mais non, pour de vrai... Je pense que je serais capable de continuer à vivre dedans encore 15 années facile. Là. Je suis pas encore au stade où est-ce que je m'arrache les cheveux de sa tête. Non, vraiment pas. Puis moi, je suis contente d'avoir ma blonde tout le temps à portée de main. T'sais, c'est pratique. Moi, quand on se ramasse dans des grandes maisons puis je peux pas y parler quand je suis à la bol, ça me déstabilise. Je suis comme, on est rendu là, là. C'est comme, ah, t'es dans une autre pièce, je peux pas. Ah, OK.
Parce que là, tu peux être sa bol puis tenir la main.
Clairement, pendant qu'elle fait la vaisselle.
Je suis sûr qu'elle adore ce moment-là d'intimité. Ah, oh, c'est beau.
Ouais.
Est-ce que t'es quelqu'un qui aime le danger?
Ben, écoute, ça dépend à qui tu demandes. T'sais, si tu demandes à mon père, oui. Mon frère, ma sœur, ce qui. S'imagine que je fais dans la vie, puis même pour mon propre fun, ils comprennent pas, là. Ils pensent que je suis la personne la plus extrême, mais honnêtement, je ne crois pas, là. Je suis quelqu'un qui a une notion du danger puis du risque que je prends en faisant ce truc-là qui est très aiguisé, surtout parce que je guide puis que j'amène des gens avec moi. Je peux pas me permettre de pas penser au potentiel danger, tu sais. Je reste dans ma zone de confort. J'y sors parfois aussi, mais tu sais, c'est toujours calculé, mettons. Mais surtout parce que je suis rendu à un stade dans ma vie où est-ce que, ben, je vieillis puis c'est mon job, fait que je peux pas me permettre de faire, ben, je vais sauter ce cliff-là de 40 pieds, voir si je vais le lander, tu sais, ça me donne rien, moi, dans le fond, tu sais, je veux dire, j'ai pas de thrill à faire ça parce que je pense juste à qu'est-ce qui pourrait arriver de mal. Mais je pense que comparé à d'autres personnes, le terrain que je skie, dans le contexte que je le fais avec ma job, puis dans du terrain avalancheux, je suis consciente que ça a un niveau d'extrême quand même, que moi, je vois plus comme de quoi d'ici extrême que ça, mais je sais que ça l'est pour beaucoup de monde.
Puis on sort d'une saison qui a été quand même.
Aussi, ouais. Ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde, je pense, des dangers que c'est de skier en backcountry. Je pense qu'il y a toujours le monde qui savent que des avalanches, ça se peut, savent que c'est une possibilité, mais ouais, cet hiver, ça a été un particulier. Mm-hmm.
Puis au début de notre rencontre, tu m'as dit, c'est suite à la pandémie que là, je me suis dit, guider, c'est pas nécessairement à toute épreuve,
mm-hmm.
avec les changements climatiques
mm-hmm.
aussi. Ça doit changer un peu vos sorties ou même votre...
C'est sûr que les changements climatiques, on y pense constamment, tout le monde qui sont dans cette industrie-là. Puis ça vient aussi ajouter un niveau de complexité à comment exercer ce sport-là de façon sécuritaire. Puis moi, je commence. J'étais 10 ans tail guide, mais tail guide, c'est l'assistant de quelqu'un qui prend vraiment les décisions. Puis moi, ça m'a pris toutes ces années-là pour me rendre au stade où est-ce que je suis à l'aise de prendre moi-même les décisions puis d'être la personne qui est en avant, tu sais. Comme de m'appeler le lead guide. Fait que c'est sûr que depuis que je suis lead guide, beaucoup plus de responsabilités sur mes épaules. Puis c'est sur moi que ça revient ici, quoi qu'il arrive. Fait que c'est sûr que j'y pense tout le temps. Puis c'est quand même vraiment stressant.
Ouais, ça doit.
Puis aussi, on n'est pas tout seul. C'est sûr que sur la pente, tu te sens un peu plus seul parce que c'est vraiment toi. Mais tu sais, toutes les décisions qui sont prises avant de se lancer dans une journée, c'est un travail d'équipe. Fait que ça, c'est sûr, ça l'aide. Mais dans ski, c'est pas une joke. ça peut vraiment mal virer. Ouais.
Ça m'étonne pas là, que maintenant tu sois rendu à l'étape de ta vie où tu dois prendre cette décision-là. Puis
ouais.
Ça vient avec un fardeau quand même.
Ouais, exact. Mais c'est sûr que majoritairement du temps, ça va bien, tu sais, parce que tu prends les bonnes décisions et tout. Puis quand ça va mal, ben, t'es entraîné à faire ce qu'il faut. Encore là, cette passion pour le ski, cette obsession, comme tu disais plus tôt, pour les gens, même les clients que j'amène, tu sais, qui veulent aller skier des choses.
Ouais, puis eux, là, ils ont booké ouais. ça depuis un an. Puis ah, là, ouais. c'est là. Puis là, dis-moi pas, là, qu'on peut pas y aller, le ski.
Non, non, c'est ça.
Faut qu'on y aille, le
ski. Il y a cette pression-là.
J'ai déjà dépensé 3 000$ en billets d'avion puis en accommodation ouais. pour être ici.
Oui, il y a cette pression-là, mais je te dirais qu'avec le temps, dans cette job-là, t'apprends à pas les écouter, ces autres facteurs-là, là, ces autres variables-là que les clients, eux, ont en tête. Nous, c'est safety first, puis alors, là, ce qu'ils veulent, l'argent qu'ils ont dépensé, on s'en contrefou, là, dans le sens que c'est pas sa priorité, mais ces gens-là qui ont décidé de faire ce trip-là, puis qui se sont ramassés à mauvaise place au mauvais moment, puis qui leur sont arrivés quelque chose ou qui sont arrivés quelque chose à leurs proches, c'est un pensée bien, des fois, tu te dis comme, ouais, y avait-tu vraiment réalisé le danger, tu sais, quand ils ont commencé à faire ça, c'est triste, t'sais. Quand toutes les as s'alignent, puis t'as une journée parfaite, t'as les bonnes conditions, la belle météo, t'as pas de danger d'avalanche, c'est fou, là. Moi, je réalise pas encore que je suis payé pour faire ça. c'est le rêve, là.
On en est maintenant à notre deuxième saison de Franc Ouest, grâce à l'implication de partenaires financiers comme Patrimoine Canadien et Réseau Femmes Colombie-Britannique. Mais c'est grâce à vous, nos auditeurs, qu'on peut continuer de promouvoir la francophonie canadienne. Merci d'être là à chaque semaine et de partager vos épisodes préférés avec d'autres. Merci de laisser des commentaires, des j'aime et des 5 étoiles. Merci de prendre le temps de découvrir les histoires fascinantes de chacune de ces femmes.
Est-ce que le fait que toi, t'es une femme dans cette industrie-là, ça t'a-tu empêché ou t'as-tu vécu des moments de...
Absolument. Ouais. Puis ouais, c'est un bon sujet parce que c'est sûr que moi... ben écoute, quand tu m'as proposé de faire cette entrevue-là, c'est sûr que moi, j'espérais pouvoir aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui... Ça a eu une grosse part ouais, dans mon développement puis dans ma carrière jusqu'à maintenant. Puis je sais que ça va continuer d'en avoir une parce que c'est en effet un monde très masculin. Pour juste mentionner l'industrie du ski, parce que je ne rentrerai pas dans le rafting parce que c'est encore pire, mais je veux dire, t'es souvent en minorité, tout le temps en fait. T'es tout le temps en minorité, c'est rare qu'il y en a d'autres, des filles. C'est le continuel sentiment d'imposteur. Même si tu veux pas l'avoir, tu l'as pareil. C'est comme, je suis assez bonne, dans le fond, pour être ici, je suis assez forte. C'est tout ça. Puis malheureusement, je veux pas généraliser, mais les guides de ski, c'est pas les hommes les plus qui vont penser à ces affaires-là. Puis c'est du monde qui ont beaucoup d'ego. Ça prend de l'ego à un certain point pour faire ce genre de job-là. Parce que tu travailles dans le public, il faut que le monde t'apprécie, il faut que tu sois charismatique, il faut que tu sois bon, faut que tu sois...
Un leader,
il faut que tu sois fort, faut que tu sois...
Les réponses.
Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça attire une catégorie de personnes. Encore, il y en a des femmes qui sont comme ça, je veux pas généraliser une fois de plus, mais tu sais, moi, je sais que j'ai pas toutes ces caractéristiques-là, puis j'ai un autre style complètement. Puis c'est la bataille avec les collègues par rapport à ça, mais aussi les clients. Puis ce que les gens pensent de toi, sans même te connaître, sans même avoir vu de quoi t'es capable, t'sais, parce que t'es une femme. T'sais, c'est comme l'idée déjà prédéfinie. C'est comme,
elle sera pas assez bonne pour guider l'XP, on exact. S'en va, c'est du
elle
gros
Elle skiera pas assez vite, elle sera pas capable de me déterrer si je suis enterrée dans une avalanche parce que c'est une femme bien moins forte. T'sais, pour l'avoir vécu, ça l'arrive encore, là, t'sais, des idées prédéfinies. Mais je veux pas sonner trop défaitiste parce que j'ai quand même été capable de me rendre où je suis en ce moment. Ça m'a pas empêché. T'sais, il y a personne qui m'a dit « Oh non, t'es une femme, t'as pas le droit ». Fait que ça, je me sens super chanceuse de ça. Mais ça n'aura pas été sans embûches, puis surtout des embûches psychologiques chez moi. Ça a été des barrières que je me suis mise moi-même. Juste à cause de cette idée-là qu'on a dans notre tête, les femmes, c'est qu'on a besoin de travailler plus fort, on a besoin de montrer qu'on est plus capable, puis faire plus. Puis ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a drivé toute ma carrière d'attendre ski, c'est de travailler plus fort. Ça a fait de moi un employé puis une collègue que le monde appréciait. Mais moi, je le faisais pour compenser pour le fait que j'étais une femme. Mais dans le fond, j'avais pas nécessairement besoin de le faire. Mais le fait que, tu sais, le cours pour être lead guide, c'est un cours qu'il faut prouver que tu as ce qu'il faut pour rentrer dedans. C'est super contingenté. Fait qu'il faut que tu prouves à cette association-là, qui est l'Association canadienne des guides de montagne, que tu as le résumé, puis tu as le profil pour être examiné pour devenir lead guide. Puis ça vient avec des examens, ça vient avec des cours. Puis juste cette étape-là, moi, je me suis empêchée de le faire pour plusieurs années parce que je pensais pas que je pourrais le faire. Tout le monde me disait que je pouvais, mais c'est que j'avais peur d'être une des rares femmes à le faire. Francophone, en plus. Puis dans la communauté LGBT, tu sais, je sais pas, j'avais comme plein de trucs qui me bloquaient parce que j'étais comme une minorité sur plein de facettes, genre. C'est, je sais, tu me regardes avec un air de genre « pourquoi? » Puis je sais.
Ben non.
Parce que c'est con, tu sais, mais ça m'est quand même traversé l'esprit puis ça a été quand même un truc dans mon cheminement. Mais là, je l'ai fait, j'ai bien réussi. Ça m'a pas empêché à rien d'être une femme, dans le fond. Puis j'ai performé autant que ben des hommes pour devenir une guide, puis j'en suis fière. Parce que, ouais. Je sais pas si ça fait du sens.
Ben oui. Ouais. Puis mon visage, c'était pas du tout un visage de « Ah, pourquoi? » C'était plus genre, je pense que je peux comprendre parce que ce qui me surprend, c'est que tu as vécu un syndrome d'imposteur. Je m'attendais pas à ça. Parce que tu as étudié en plein air. Au Québec, tu sais, d'étudier à Gaspé, c'est bien reconnu. Puis le fait que tu dises « J'étais francophone aussi », j'avais comme pas pensé. Dans ma tête, ton bilinguisme serait comme un argument en ta faveur, mais... J'avoue que dans un milieu où t'as du monde qui sont nés dans les montagnes, dans les rocheuses, eux, c'est sûr qu'ils se sentent à leur place. Mm-hmm. Ils ont skié ce terrain-là toute leur vie. Je pense que je peux m'imaginer, ouais, à quel point tu t'es mis de la pression, puis tu t'es restreint, puis...
Ouais, ouais, t'as mis le doigt là-dessus. Tu sais, je m'en suis rendu compte en étant dans ce domaine-là. Je suis comme, OK, toi, t'es né à Banff, t'as toujours skié, t'as fait de l'héliski comme avec tes parents quand t'étais jeune... Puis moi, je suis arrivée ici, j'ai commencé à 21 ans à voir des grosses montagnes puis à être dedans. Fait que c'est sûr que tu pars avec un retard. Puis c'était comme de rattraper ce retard-là, puis en plus d'avoir assez de confiance en moi pour faire comme non, non, je peux quand même le faire. Puis le côté francophone, c'est vrai que c'est un atout pour bien des raisons, mais n'empêche que je vais toujours être la guide fille qui a l'air plus jeune qu'elle est, qui parle bizarre, tu sais. Puis en plus, elle est Gwyn.
Il y a tout le monde, t'sais... ah non, pas elle.
Mais ça, à la limite... C'est un détail, mais ça, je m'en contrefous ce qu'il pense de ça, mais il y aurait genre le gars qui vient de BAM, qui est beau, qui a une barbe, qui est ci, qui est ça, puis là, ils se font dire « Non, non, t'es avec l'autre. » Puis genre, jusqu'à ce que je sois sur la pente à leur montrer de quoi je suis capable, eux, ils se mettent dans la tête « Ah, oh, c'est pas, tu sais, pourquoi je suis pas avec l'autre? » Je sais pas. Mais moi, je me disais qu'ils disaient ça.
Quand t'es en situation d'urgence, le gars qui est né à BAM... On le sait pas, il est fait de quoi. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit les personnes. Ils sont là pour quelle raison? Parce que le gars que finalement, lui, son acceptation dans ce programme-là, c'était comme plus facile parce qu'il y a une aisance, parce qu'il est grandi là-dedans. Mais peut-être que lui, finalement, c'est pas ça son défi, c'est pas ça non plus sa passion.
Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que j'étais beaucoup confrontée à ça aussi dans ce domaine-là. C'est comme genre... T'es là pour quelle raison, dans le fond, t'sais?
Ouais.
C'est bien glamorous d'être la personne assise en avant de l'hélicoptère puis qui décide où est-ce qu'on va skier. Oui, oui, c'est sûr. Là, moi aussi, des fois, j'ai mes moments, là, genre, OK, c'est vraiment hot ce que je suis en train de faire. Mais ce qui compte, c'est le monde en arrière, là. Ils sont là, puis c'est la raison pourquoi t'es là. J'ai peut-être eu des propos un peu négatifs, comme quoi c'était difficile, mais il y a eu des moments où ça a été super empowering aussi. J'ai eu énormément de moments où est-ce que j'ai été fière d'être une femme, j'ai été fière de réussir à faire ça, puis je veux juste inspirer d'autres femmes à le faire. T'sais, je veux pas qu'il y en ait qui se disent « Ah, ça a été tough pour elle. Ah, dans le fond, je me donnerai pas la peine. » Au contraire, ça a valu le coup, là. Fait que, tu sais, faut pas non plus que ça freine des jeunes femmes de le faire, sachant que c'est un monde plus masculin, puis je veux mentionner que ça change, puis que c'est beau ce qui s'est en train de passer. C'est parce que je peux voir ce que les femmes apportent à cette industrie-là, tu sais, c'est évident qu'elles en ont besoin. Je pense à ça, je sais pas si ça répond bien à ta question.
Ouais, mais... vraiment.
Ouais.
Est-ce que c'est difficile pour toi la distance avec ta famille ou tes amis?
Tu sais, moi, à la base, c'est plus personnel un peu, mais tu sais, moi, quand j'ai décidé de venir au BC pour guider en raf, comme je te parlais, c'est la même année que ma mère est décédée. Puis moi, ça a comme été un peu un tremplin quand ça s'est arrivé. Puis je me forçais à rester au Québec pour m'occuper d'elle parce qu'elle était malade longtemps. Elle est décédée jeune du cancer. C'est pour dire que ça a comme été un wake-up call pour moi de faire comme j'ai besoin de vivre ma vie, tu sais, puis j'ai besoin de le faire, ce plan-là, d'aller dans l'Ouest. Tu sais, perdre sa mère, c'est difficile, surtout aussi jeune. Puis des fois, je me sens loin de ma famille. C'est sûr, quand ça me frappe, puis j'aimerais ça pouvoir aller voir ma sœur, puis en parler, puis pleurer ensemble. Puis mon père aussi, oui, je trouve ça difficile d'être loin des autres, c'est sûr. Mais je fais l'effort de retourner souvent, puis. Mais une chose, c'est que personne n'est venu me voir encore. Mais j'ai bien hâte au moment où est-ce que, genre, ma sœur va être sortie de son enfer d'avoir trois enfants, un peu comme toi, puis venir me voir.
C'est quoi ta plus grande fierté?
Le sentiment de fierté que j'ai eu quand j'ai su que j'avais passé. Puis tu sais, l'examen, c'est cinglé, là, t'es 8 jours en montagne, tu fais du touring, tu prends des décisions en montagne, tu guides des gens, mais tu guides tes fellow candidates, là, les autres qui font l'examen aussi, puis t'as un examinateur qui te regarde, qui fait tout ce que tu fais, tous tes moindres gestes, c'est vraiment, vraiment intense. Je pense que c'est ma plus grande fierté pour elle, surtout parce qu'il y a le build-up avant. Tous les struggles dont on a parlé que j'avais eu en étant une femme, en étant un francophone, toutes les barrières que je m'étais mises, tout le moment dans ma carrière où je me suis dit « Oh non, je le ferai pas, les CMJ, je serai jamais assez bonne pour ça. » C'est pas mal le plus gros truc que j'ai accompli dans ma vie.
Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebOuest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebOuest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebOuest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balcé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare, Peter Reed et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkowski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau. Cet épisode n'aurait jamais été possible sans le soutien de l'Office de tourisme de Nelson et du lac Kootenai. Certains considèrent notre région comme l'un des écosystèmes les plus rares de la planète. On y retrouve des forêts anciennes, des espèces emblématiques comme le grizzly et le saumon kokanee. Une vaste toundra alpine, des sommets majestueux et des vallées glaciaires qui recouvrent une zone tempérée intérieure unique. Notre région est peu connue, en fait. C'est deux chaînes de montagnes, un lac immense alimenté par les glaciers et une véritable expérience authentique de culture, de plein air et de détente. Vous ne pourrez pas ressentir toute la richesse de cet endroit à travers votre cellulaire ou l'écran de votre iPad, même pas avec un épisode balado. C'est juste pas la même chose que de venir en faire l'expérience en personne. Il y a les rues principales qui datent d'une autre époque, aux couleurs vives et inspirantes, avec leurs galeries d'art, leurs théâtres, leurs boutiques. Il y a les dizaines de cafés, de micro-brasseries, de restaurants à découvrir, avec une ambiance d'après-ski tout au long de l'année. Faut pas oublier non plus la légendaire poudreuse. Que ce soit à la station de ski Whitewater, en cat-ski, en hilly-ski ou simplement en hors-piste, c'est inoubliable. Peu importe ce que vous recherchez, vous allez le trouver ici. Nelson et le lac Kootenai. Notre place, votre place. Visitez le nelsonkootenaylake.com pour trouver des idées inspirantes de voyage.